France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. La présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout. Vous.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Des histoires d'amour, une histoire d'amitié, mais des voix, surtout, qui racontent ou qui réinventent un passé, un présent, dans ces deux films sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
L'amour a toujours été son activité principale. L'amour, comme une expérience artistique, la preuve avec ce film fragment d'un parcours amoureux. Bonjour Chloé Barreau.
Bonjour, merci de me recevoir.
Et avec ce document, l'idée de questionner votre passé amoureux avec 12 ex, ce qui a eu lieu et ce qui reste quand l'amour n'est plus. Un écrivain confie sa voix à un imitateur pour se débarrasser de lui-même et s'adonner à l'écriture. Bonjour Bruno, Denis Podalydès. Oh là là.
Oh, c'est
un peu arrivé. Un petit salut à Bruno.
C'est pas grave.
Cet écrivain reconnu, c'est vous dans Le Répondeur, ça commence bien, de Fabienne Godet. Et celui qui va vous imiter, c'est lui. Bonjour Salif Cissé.
Bonjour.
Enfin,
bonjour.
Un premier rôle, une histoire d'amitié, de rencontre et de transmission. Ces deux films seront sur nos écrans mercredi prochain. Et enfin, les sorties de cette semaine de Wes Anderson à Diplodocus, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Enfin, je suis jalouse de ce qu'elle fait, mais je ne m'autoriserai pas à demander aux gens ça. Je trouve ça fou qu'elle s'autorise à nous demander ça, mais une fois qu'on nous le demande, c'est impossible de dire non. C'est ça le piège moral de cette demande. C'est ça.
C'est ce qu'elle a fait durant toutes ces années, de documenter sa vie amoureuse, de filmer chaque instant, de garder le moins d'objets, de prendre des photos de manière constante.
Dans les cafés, les bars, les bistrots, en voyage, dans la voiture, elle avait toujours sa caméra. Mais à l'époque, c'était assez étrange.
Toujours une volonté de saisir l'instant. Oui, de croquer le moment, d'attraper le moment.
Je ne vous cache pas, Chloé Barreau, que cette idée d'aller faire témoigner 12 ex-amoureux dans votre film Fragment d'un parcours amoureux, parler sans cesse de vous, me paraissait un geste a priori assez narcissique. Je ne dois pas être la première à le dire, mais ça c'était le risque. Mais peu à peu, vos histoires ressemblent à celles des autres, les nôtres. C'était ça en fait le but du jeu.
Oui, moi j'étais convaincue de la force du dispositif. Évidemment, ça me coûtait de me prendre comme objet. Je l'ai fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai documenté toutes mes histoires d'amour, donc j'avais énormément d'archives de ces histoires. Aussi parce que j'ai un parcours un peu singulier, donc avec des hommes et des femmes entre Paris et Rome, donc c'était assez romanesque. Mais c'était pas évident de faire ça justement parce que évidemment beaucoup de gens, quand je présentais ce projet, parlaient du risque narcissique, et donc j'ai essayé de trouver le bon équilibre et de me tenir hors champ, puisque pour moi, évidemment, le sujet du film, c'est le passé amoureux. Et finalement, les gens parlent du public et de leur propre expérience.
Mais il faut dire comment vous vous tenez hors champ. Il faut le dire.
Ce n'est pas moi qui ai réalisé les interviews à mes ex. Elles ont été réalisées par Astrid Desmousseaux, qui est une journaliste. Je voulais absolument que les gens aient la liberté de parler, de balancer aussi. Et ça permettait aussi un récit plus littéraire, plus... traditionnel, en utilisant le pronom « elle », on rentre tout de suite dans le roman d'éducation, en fait.
En même temps, c'est un très gros fantasme, ça, qu'on a peut-être un peu tous, hein, de réunir... Non, mais c'est vrai. Honoré l'a fait dans La Chambre 212. Il y a eu un autre film, Broken Flowers, comment il s'appelait ? De Bill Murray,
avec Bill Murray
qui allait retrouver ses anciennes amoureuses. Oui. Mais vous, donc vous le disiez, vous avez, Chloé, vous avez filmé entre 16 ans et maintenant entre Paris et Rome. Mais quand vous filmez à ce moment-là, est-ce que vous avez l'idée d'en faire quelque chose un jour et pourquoi pas un film ?
Non, absolument pas. En tout cas, pas de manière consciente. Alors évidemment, c'est évident que si on regarde maintenant le film, on se rend compte qu'il y a un subplot et qu'il y a aussi en creux l'histoire d'une vocation. J'étais une réalisatrice qui m'ignorait, en fait. C'est comme si j'avais accumulé toutes ces images pour un jour en faire un film. Mais au moment où je le fais, non, c'est pas du tout ça. C'est plutôt plutôt justement la volonté, oui, d'être dans le présent, de le saisir, de le garder, d'avoir des traces. Et c'était aussi ma manière d'être amoureuse, c'est-à-dire de regarder intensément l'autre, de le mettre en cadre, de le photographier, de le capturer finalement dans une image.
Un peu comme quand on fait un album de photos pour se prouver que ça a existé.
Tout à fait, oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire, voilà, ces choses-là ont eu lieu. Ça aide aussi la mémoire, hein, d'avoir des traces, d'avoir des images. Je suis la fille d'un historien, donc c'est quelque chose qui me caractérise, celle d'archiver, de garder, de conserver tout.
C'est déjà du recul sur le présent.
Oui, c'est une sacrée prise de distance.
C'est quand même fou. Vous aimez quelqu'un, ouais. Vous le filmez, et c'est déjà du recul. Comme si votre regard, c'était une caméra qui s'éloignait de vous et de la personne que vous aimez parce que vous les filmez.
Oui, c'est ce que dit à un moment donné Caroline, un personnage du film. Elle dit que finalement, je filme les gens, je les fragmente, et ils deviennent des objets. Donc c'est vrai que là, j'avais envie aussi de leur redonner la place de sujet. Et c'est évident que j'ai toujours eu du mal, moi, à être dans le présent. Donc le futur n'existe pas, j'ai du mal à être dans le présent. Finalement, le passé, c'est la seule chose que j'ai.
L'amour finit mal en général, sauf exception. En tout cas, est-ce que ces 12 ont accepté facilement ?
Alors certains, oui, puisqu'on a une bonne relation, on est toujours en contact et ils ont été assez enthousiastes par ce projet. D'autres ont été plus réticents, c'est évident, pour diverses raisons, mais finalement, bon, d'abord ils n'étaient pas très étonnés de cette proposition, me connaissant. c'était un peu quelque chose qui leur pendait au nez. Et puis je pense que cette proposition, au fond, est assez irrésistible. Finalement, quand est-ce qu'on a l'occasion de raconter notre point de vue sur une histoire passée à quelqu'un qui ne la connaît pas, c'est un exercice assez... enrichissant, au fond.
C'est un truc que je ferais jamais, moi. Vous, Denis Podalydès, vous feriez ça devant une caméra. Imaginez, une personne arrive, elle parle au nom d'une de vos anciennes amoureuses et vous demande de re-raconter cette histoire.
La démarche m'intéresserait naturellement.
Ouais.
Mais une fois que j'ai dit ça, je serais probablement gêné, peut-être que je me sens, je ne sais pas du tout, le cas de figure ne s'est jamais produit. Mmh. Je vais vous poser une question. Si quelqu'un, au cours de ces histoires, disait, ne me filme pas, est-ce que ça interférait avec l'histoire elle-même?
Bah, ça a été le cas, Rebecca, vous voulez pas être filmée.
Zlotowski.
Oui, on va remettre un nom.
Ouais. Elle voulait pas être filmée, mais par pudeur, parce qu'elle c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup de sa vie privée ou de son passé en général. Et puis finalement, au dernier moment, je pense qu'elle s'est rendue compte que si elle avait été la seule à ne pas être filmée, finalement, ça aurait été encore plus mettre le projecteur sur elle. Donc finalement, elle a accepté d'être filmée. Mais j'avais tout à fait accepté les conditions qu'on me posait. C'était normal, oui, il fallait. C'était quand même une démarche bienveillante, hein, la nôtre. On n'était pas dans une confrontation ou un règlement de compte.
Et vous, Salif, si vous accepteriez ça?
Oui, je pense. Je pense que c'est assez irrésistible, comme vous l'avez dit. Hein. Ouais. Je pense que j'aurais des trucs à dire, ouais.
Mais dans une histoire, ça arrive de retrouver des anciens amoureux, et en fait, on n'a pas la même mémoire. Il y a des souvenirs positifs pour nous qui sont négatifs pour eux. Et ça, comme Laurent vous le disait tout à l'heure, c'est pas vous qui faites les interviews, mais c'est des cadeaux que vous recevez. C'est une autre personne qui va obtenir ses confidences. Et vous, après, vous les regardez et vous avez eu d'énormes surprises ou pas?
Ah oui, c'était vraiment... le soir même, je regardais les interviews toute seule avec mon casque comme ça. C'était vraiment un voyage... c'était complètement dingue. Alors en même temps, je gardais un petit peu la distance. C'est-à-dire que les personnes deviennent des personnages. Et moi, je pensais surtout à l'histoire. C'est-à-dire que la motivation, elle n'est pas auto-centrée. Moi, je voulais vraiment faire un film pour le public, une histoire qui soit romanesque. Et donc, je pensais aussi à ça. Donc, mais c'était assez bouleversant, surprenant. Parfois, c'était aussi douloureux ou très gênant, puisqu'il y a des choses qui sont...
Il y a des paroles fortes.
Qui font pas plaisir. Hein.
Vous êtes consciente d'avoir fait mal parfois?
Oui, bien sûr. Et l'amour, de toute façon, c'est quelque chose de risqué. Et si on a peur d'avoir mal ou de faire mal, bah, il vaut mieux ne pas s'y lancer, puisque c'est quelque chose qui, à un moment donné, forcément, peut créer des dégâts. Et voilà, donc c'est... Bon, j'assume. Maintenant, c'est quelque chose qui je regrette. Et en même temps, bon, là, on n'a que la version des autres. Je ne réponds pas.
Vous répondez
donc,
pas,
est-ce
oui.
Est-ce que vous croyez tout ce que vous entendez? C'est pas forcément vrai.
Mais c'est peut-être, en fait, c'est peut-être ça qui m'agaçait, c'était l'emphase, le romantisme. Le fait qu'elle soit amoureuse de l'amour, quoi.
Son obsession amoureuse, tout un roman. Quand elle est passionnée, elle est omniprésente. Et c'est du terrorisme. Quand elle rentre dans votre vie, c'est un attentat, en fait. Je sais pas si c'est un attentat à la pudeur, mais en tout cas, c'est un attentat, ouais.
Elle était dans la dimension, comment dire, dans la dimension romantique de l'amour, ce qui consiste à penser que l'amour autorise tout, que la manche. Elle a blessé beaucoup de gens autour d'elle. J'ai les souvenirs qu'elle blessait autour d'elle les gens, que voilà, que c'était pas sans dégâts. Il y avait une manière de faire qui n'était pas sans dégâts.
Je le disais au début, l'amour a toujours été mon activité principale, dites-vous. Mais c'est vrai qu'on n'a aucun détail matériel sur le travail, sur ce que vous faites. Ces gens sont dans le 5e arrondissement, ça a l'air plutôt d'aller. Comme s'il n'y avait que ça dans votre vie.
Bah, c'est un peu vrai, c'est-à-dire que je n'ai pas eu beaucoup d'ambition dans ma vie, je n'ai pas vraiment investi dans la carrière. Je me suis rendu compte récemment d'ailleurs que ce n'était pas la priorité de tout le monde, l'amour en fait.
Non.
Pour moi, ça l'a été, mais bon, en même temps, je suis la fille d'une histoire d'amour hors du commun.
Oui.
Un prêtre catholique qui s'est, donc, et une infirmière, donc je suis la fille d'une histoire d'amour interdite. C'est quelque chose que probablement j'ai un petit peu reproduit aussi dans ma vie, c'est-à-dire que l'idée que le destin était vraiment dans la vie amoureuse.
Ça a conduit, c'était votre ligne de conduite, ça.
Bah oui, bah c'est mais je regrette pas. C'est ce qu'il y a de plus beau. L'amour, ça peut changer une vie. Ça nous fait changer de ville, de métier, de sexe. C'est quelque chose de profondément subversif. C'est la seule chose qui nous reste aujourd'hui.
Les lettres d'amour sont importantes, puisqu'elles n'existent plus maintenant, puisque c'est des horribles SMS qu'on voit à l'écran. En revanche, on a celles qu'elles vous ont envoyées, mais on n'a pas les vôtres.
Bah justement, ce qu'on voulait, c'était vraiment donner la parole aux autres. Donc en fait, c'est intéressant, puisqu'on a leurs lettres, qui sont souvent d'ailleurs des lettres de rupture, que certains ont accepté de lire. Et c'est très bouleversant, puisque quand on écrit une lettre, en fait, on l'envoie, et puis elle n'est plus à nous. Et finalement, là, on leur ramène une lettre qu'ils ont écrite, souvent il y a 20 ans, 25 ans, et ils la relisaient vraiment au présent, puisqu'une lettre d'amour, c'est toujours au présent. Et ça, c'était assez bouleversant. Et je voulais qu'il y ait cette dimension épistolaire dans la narration. Je suis une grande fan des liaisons dangereuses et ça permet aussi beaucoup ça permet de condenser le récit puisqu'il y a beaucoup d'informations dans une lettre. Il y a une date, un lieu, une action. Donc c'était quelque chose. Et puis on voit aussi, on a filmé ces lettres, on voit la calligraphie, l'écriture.
Oui.
C'est quelque chose qui est très beau puisque aujourd'hui c'est en train de disparaître.
Vous faites un travail proche de celui de Sophie Calle finalement.
Absolument, c'est une artiste qui m'a profondément marquée. Moi, quand j'ai vu Douleur exquise en 2003, je crois, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, on peut faire ces choses-là. Ça m'a donné l'autorisation de faire ça. Et j'ai trouvé, et en plus, l'aspect ludique aussi, provocateur de ce qu'elle fait, les invitations qu'elle fait, comme ça, la manière de vivre sa vie de manière artistique, c'est quelque chose que je trouve absolument incroyable.
Vous dites qu'il y a beaucoup de filles, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans ce film. Et peut-être qu'au début, vous n'arriviez pas à vous avouer que c'était les femmes que vous aimiez.
Moi, j'avais cette forme de simplicité à l'idée d'être en couple avec une fille. C'était pas du tout gênant, mais chez elle, je sentais que ça l'était. Et elle me disait que pour elle, c'était la première fois. Et puis, un soir, j'ai compris que c'était faux. Je me suis sentie idiote de ne pas avoir vu qui était sous mes yeux. Alors je suis allée chez elle le lendemain matin. J'étais très en colère. Et je lui dis qu'elle m'avait menti. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait menti. En me jouant cette comédie de la première fois. Et donc j'ai pris toutes mes affaires, toutes les lettres que je lui avais écrites, je crois. En tout cas, les photographies de nous deux. J'ai tout pris, je suis partie et je ne vais plus jamais reparler. C'était donc il y a 25 ans.
C'est la plus blessée, elle, Anne Berest.
La romancière Anne Berest, hein, ouais. C'est elle qui parle.
Eh bien, on ne s'est pas encore revus. Depuis, enfin, si le film a pu faire quelque chose, en tout cas, c'est que je la remercierai jamais assez d'avoir accepté que tout de même, au nom de l'écriture d'ailleurs, elle m'a dit, elle n'a pas voulu empêcher mon écriture, c'est pour ça qu'elle a accepté de participer au film avec réticence. Mais en réalité, ça a quand même aussi réparé quelque chose, puisque finalement, je ne l'ai pas revu, mais je l'ai revu dans ce film. Ça suffit peut-être pour moi. Oui, c'est des choses qui arrivent. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre, le fait de faire table rase, de clore les relations, de ne plus se parler. C'est quelque chose qui a toujours été très douloureux pour moi. Donc c'est pour ça qu'effectivement, le film essaye aussi de réparer quelque chose.
Et il répare quelque chose chez vous ? Il vous a fait du bien, ce film ?
Oui, c'était pas le but, ça suffirait pas pour faire un film. Mais c'est vrai que c'est assez rassurant, l'idée que même si les histoires se terminent, pour des obstacles intérieurs ou intérieurs, peut-être que l'amour, lui, ne finit jamais. En tout cas, moi, le désamour, c'est une expérience que j'ai jamais connue.
Vous continuez à filmer ?
Bien sûr, je continue à filmer.
Et vos amours ?
Mes amours et ma vie, en général.
Et vos amours acceptent d'être filmés ?
Bah, en général, oui, les gens qui sont avec moi, c'est quelque chose qui ne les dérange pas ou auquel ils sont habitués, en tout cas.
Ils savent.
Ça s'appelle Fragment d'un parcours amoureux, Chloé Barrault. Et maintenant,
allez-y.
On part ailleurs.
Merci.
Le problème, c'est le soir, c'est quand j'écoute les messages. J'ai honte de le dire, mais c'est la première chose que je fais quand j'ai terminé mon travail. Je me précipite pour rallumer mon portable. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Heureusement que je n'ai pas cédé à la tentation des réseaux sociaux, j'aurais passé toute ma vie. Alors, ça va vous paraître complètement fou, mais j'ai pensé que quelqu'un pourrait répondre à ma place. Quelqu'un comme vous. Un imitateur.
Attendez, vous êtes sérieux, là ? Vous voulez que je réponde à votre place en me faisant passer pour vous ?
Vous dites que je suis complètement cinglé.
Pourquoi vous demandez pas aux gens de vous laisser tranquille, tout simplement ?
Vous avez beau leur expliquer aux gens, ils comprennent rien, ou plutôt, ils ne veulent pas comprendre. C'est pareil, les gens ne se rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte du degré de concentration qu'il faut pour écrire. À chaque fois qu'ils m'appellent, moi je perds un temps fou à m'en mettre au travail.
Vous avez pas besoin d'un imitateur, vous avez besoin d'un assistant.
C'est pas la question, moi je veux qu'on me foute la paix. Je veux disparaître momentanément, voilà. Ne rien savoir. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un comme vous, qui se fasse passer pour moi, qui me remplace, qui s'occupe de tout à ma place, le temps que je finisse ce livre.
Personne ne peut tromper ses proches. Même le meilleur imitateur ne peut pas faire ça.
Ce sera tellement énorme que personne ne se posera la question.
Le répondeur Pierre Chauzène, romancier célèbre, c'est vous, Denis Podalydès, aspire au silence et à l'invisibilité. Il va confier son moi social à Baptiste, c'est vous, Salif Cissé, jeune imitateur. Donc dans ce film, Le Répondeur de Fabienne Godet, le pitch, c'est une idée très romanesque, ça, Denis, donc de mettre sa vie entre parenthèses pour créer.
Mais je pense que c'est l'idée qu'a eu ce romancier, dont le nom à l'instant, Blanvillain.
Luc Blanvillain.
Oui. Luc Blanvillain a eu, ça vient d'un écrivain qui a dû avoir qui a réalisé, fictivement, ce fantasme. Mais je pense qu'il y a... la question, c'était, est-ce que ça...
C'est une idée romanesque.
Oui, c'est une idée romanesque.
C'est s'abstraire de la vraie vie, alors qu'on raconte la vie dans ce concret.
Bah oui, c'est... Et je le dis d'ailleurs, cette phrase, là, c'est tellement énorme que personne ne s'en rendra compte.
Ouais.
C'est totalement invraisemblable. Je pense que personne ne ferait ça et ne fera jamais ça.
Ouais.
Et ce que c'est tout à fait impossible. Mais ça enclenche une comédie. Et c'est ça, finalement, ça... Sa force, c'est romanesque. Quand on dit romanesque, soudain, on voit un horizon d'histoire, un horizon fictif qui se dégage et qui semble promettre des scènes de comédie.
Sauf que le metteur en scène que vous êtes de Cyrano de Bergerac a pu trouver quand même une petite résonance, là. Quelqu'un qui parle à la place d'un autre.
Oui, il y a quantité.
Ça résonne.
Hein, bien sûr, il y a quantité de grandes œuvres dans la fiction qui jouent
de ce remplacement.
Il y avait même chez Balzac, je me rappelle ce roman extraordinaire où c'est l'assistant d'un poète qui répond pour le poète en question à une jeune fille qui tombe totalement amoureuse du grand poète, mais elle ne sait pas que c'est le secrétaire. Je ne sais plus dans quel Balzac, ça vous dit pas, c'est merveilleux. Le poète s'appelle Casali, c'est très très drôle, et le poète, à un moment, il intercepte une lettre, et puis dit, mais que je n'ai jamais répondu à cette jeune fille-là, et son secrétaire est blême, c'est lui, et lui est tombé aussi amoureux. C'est ce jeu de ce qui est à la fois un jeu de Dieu, dupe, mais un jeu aussi sur l'amour. D'ailleurs.
Mais en même temps, ce romancier, il a toujours besoin de savoir ce qu'on pense de lui. Ok, oui, il s'extrait, il a besoin d'être aimé, en fait.
Bien sûr, il n'est pas exempt de narcissisme, comme d'ailleurs, je pense que tous les écrivains, tous les auteurs, autrices, ont un moment ou un autre, sont soupçonnés de narcissisme, sont convaincus de narcissisme. Et oui, il a quelque chose de pas très sympathique, ce personnage-là, au début, s'en remettre à quelqu'un pour régler ses problèmes, que ne le fait-il lui-même, quoi.
Mais c'est un fantasme, quand même, quand on est comédien reconnu comme vous, d'avoir la belle part des choses, finalement. De ne pas être emmerdé en même temps de pouvoir être connu par tout le monde.
Oui, est-ce qu'il y a un comédien, une comédienne qui n'a pas le fantasme de la popularité, de plaire à tout le monde?
Vous l'avez?
Je dois dire que c'est plus aujourd'hui une question.
Ça l'a été.
Oui, jeune comédien, vous êtes devant une salle, vous avez envie que tout le monde rie, vous n'avez pas envie simplement qu'il y ait, je ne sais pas, les enfants de la bourgeoisie qui rient. Vous voulez plaire à tout le monde. Il y a des... Je me rappelle d'acteurs qui faisaient des grandes déclarations comme ça, je veux qu'on m'aime, le disant tout à fait sincèrement, mais tout le monde d'ailleurs... À ce rêve-là d'être, je l'imagine. Puis après, la vie fait que non, tout le monde ne vous aimera pas.
Et Salif, si c'est, vous avez ce rêve-là aussi?
Non, pas tellement. Moi, j'ai eu assez d'amour, et tout ce qui vient là est un bonus pour moi, mais j'aspire pas à plus. Je suis très content, déjà, de faire ce que je fais.
C'est pas le même amour, en même temps, entre celui que vous avez reçu et celui que vous recevez du public, c'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose. Après, c'est clair que, pour quelqu'un qui est intéressé à raconter des histoires, le fait que ça plaise, que ça emporte un public, il y a une sorte de plaisir qu'on n'a jamais connu dans sa vie, qu'on a envie que cela continue, mais il est vrai qu'on n'a pas envie d'être emmerdé. Ça, c'est sûr.
Mais vous testez le théâtre, vous avez fait le conservatoire, et donc vous avez eu un public très tôt, vous.
Oui, et c'est pour ça que je comprends, c'est pour ça que j'en retire la valeur, j'en ai retiré la valeur assez vite, c'est-à-dire que d'être applaudi, d'être comme ça congratulé, c'est quelque chose qui vous remplit, mais au bout d'un moment, on s'habitue quand même à cette chose-là, et puis on prend plus le plaisir à essayer de les conduire dans une histoire plutôt que d'être applaudi à la fin.
Baptiste, donc, il cherche le contraire de Pierre, il cherche la lumière et la reconnaissance, il galère un peu, il répond au téléphone, en même temps il fait du stand-up, petit job et galère. Est-ce que ça ressemble à vos débuts, ça, Salif?
Non, pas du tout. Enfin, j'ai commencé le théâtre assez innocemment, vraiment en me disant pas que plus tard je serais regardé par 500 personnes ou quoi que ce soit. C'était vraiment un plaisir innocent, une découverte en fin d'adolescence. Et puis ça a pris des proportions qui m'amènent aujourd'hui ici dans ce plateau. mais non, pas la même chose.
Denis, comment vous l'avez perçu, Salif Cissé? Vous connaissiez pas avant?
Je l'avais vu dans le film à l'abordage de Guillaume Braque, et je l'avais profondément, très sincèrement remarqué. Je l'avais j'aimais beaucoup le film, vraiment beaucoup aimé ce film, et l'acteur, le personnage qu'il était, me séduisait infiniment, et donc j'étais très heureux de...
Il a une puissance physique et une finesse de jeu en même temps.
Exactement, voilà.
Il est très doux.
Il y a une douceur. Regardez ses mains, là.
Malheureusement, on ne les voit pas à la radio.
C'est compliqué.
Vous les touchez, là. Mais c'est fascinant. Effectivement, le mot douceur, c'est à la fin d'une interview, l'autre jour, ça m'est venu. C'est la douceur de Salif. Et un acteur aussi doux, dégageant en même temps cette puissance, cette finesse, cette subtilité, qu'il y a aussi dans le regard, que vous avez dans la démarche. Je me rappelle de scènes de marche dans un parc comme ça, dans l'abordage, où je me disais, tiens, j'aime le regarder marcher, lui. Même quand il dit rien, il m'intéresse. Voilà, une singularité qui vous touche. Ouais.
Et vous, Salif, de rencontrer le grand Denis Podalydès?
Ça a été une sorte de... Comment dire ça sans paraître trop bizarre. Mais il y a eu quelque chose du destin un peu, parce que moi, la première fois que je vois Denis sur scène, c'était à la Comédie Française. Et je venais avec une fille à l'époque, et c'était une sorte de date bizarre. Moi aussi, ça conduit mes... ça conduit ma vie, les histoires d'avant. Et en fait, il entre sur le plateau, et vraiment, j'étais...
Vous avez oublié la fille?
Quelle pièce?
Un peu. Ouais. c'était Fanny Alexandre. Julie Doliquet.
Ouais.
Et la même année où j'apprends que je fais le film avec Denis, je joue avec cette metteur en scène, Julie Doliquet, pour Welfare.
Ouais.
Et je jouais avec Podalydès, donc c'est incroyable. Et puis moi, je trouve que c'est un acteur qui est fascinant, vraiment fascinant. Je trouve qu'il a quelque chose de théâtral et très quotidien en même temps. Il fait passer tout avec une grande facilité. Et ça, c'est assez rare. C'est une très grande singularité.
Donc Baptiste va accepter la proposition de l'écrivain et il va répéter son rôle.
Tu as de l'or dans les mains, ma fille.
Mon invitation doit vous paraître étrange. Étrange. Vous devez vous dire que je suis complètement cinglé. Et vous auriez raison de le penser. Asseyez-vous, Baptiste. Asseyez-vous, Baptiste.
Il n'accompagne plus, là.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, monsieur.
Il y en a plus que ça.
Bonjour, monsieur.
Oui.
Bonjour. Vous n'êtes pas intéressé par nos assurances. Nos assurances. Je place la vérité. La vérité. Je place la vérité au-dessus de tout.
C'est dingue, on ne sait plus qui parle. Mais alors, dans la vraie vie, vous avez aussi mangé du Podalydès. Hein. Vous avez regardé une tonne d'interviews, de pièces, de films, etc. Ouais.
Ouais, exactement. heureusement qu'il y a des millions de gigas, trillions, octets de ce qu'il fait. Une carrière exceptionnelle qui m'a servi pendant 2 mois.
Deux mois, choper. Matin, midi et soir.
Pas exactement 2 mois, parce qu'il y avait d'autres imitations. Comme, donc il fallait
mais
repartir
oui.
son temps. Mais ouais. Il est clair que ça m'a pris pas mal de temps à essayer de... Mais il y avait quelque chose aussi... Enfin, Fabienne a fait en sorte aussi de trouver un comédien, moi, qui... Il y a quelque chose de la voix qui oui. se rapproche. On a un placement assez similaire. Et Michael Gregorio m'a beaucoup aidé à ça, à essayer de comprendre ma voix et de comprendre comment on pouvait la tordre pour se rapprocher le plus de la voix de Denis. Et ça a été essentiel.
Comment... Alors, techniquement, il y a eu donc un grand travail en amont.
Ouais.
Par la fusion des voix, la vôtre et celle de Denis, c'est pas juste une voix, hein. C'est des intonations et c'est des silences aussi.
Voilà. Exact. C'est des silences et des appuis sur certains mots qui font une signature vocale en réalité.
Ouais.
Et les gens ne sont pas dupes, les gens connaissent la voix d'une personne, même plus qu'ils le pensent. Donc finalement, il faut aller assez profondément. Même la façon de parler, bon, je sais qu'on le dit tout le temps, on l'a dit 50 fois, mais il y a cette histoire de vocal fry que Denis a. C'est un peu hein, une sorte de une chose qui traîne un peu comme cela. Et ça, c'était essentiel pour nous parce qu'on se disait, voilà, ça au moins, les gens l'ont tous entendu.
Ouais.
Et si on arrive à rester à peu près dans ça, on aura le signe que c'est la voix de Podalydès. Et après, il faut bien placer, bien parler, avoir le bon rythme. Et ça fait l'affaire. Et puis Denis arrive en post-synchro avec sa voix,
oui.
Donc ça fait que là le truc est encore plus troublant parce que ça reproduit vraiment le vrai mécanisme des imitateurs, c'est-à-dire que par exemple deux imitateurs peuvent faire la voix de Johnny Hallyday,
oui.
Mais quand on entend les deux imitations, on ressent des différences parce que la trace de la voix de l'imitateur reste oui. dans l'imitation, et c'est ce qu'on a essayé de reproduire mécaniquement finalement avec le travail de son.
L'idée, c'était de se rejoindre, quoi.
Exactement.
Oui, c'est ça, oui.
Et c'est pas facile. Tiens, on va avoir la preuve, parce que Baptiste va venir rencontrer donc cet écrivain pour lui prouver qu'il a sa voix.
Benjamin refusait ce monde où on ne croit pas à ce que l'on fait, où on ne fait pas ce que l'on dit, et où l'on ne dit pas ce que l'on pense.
Ah oui, c'est ça.
Benjamin refusait ce monde où l'on ne croit pas à ce que l'on fait, où l'on ne fait pas ce que l'on dit et où l'on ne dit pas ce que l'on pense. Il voulait croire à un autre monde, même s'il pressentait son impossibilité. Elena était entrée par effraction dans sa vie et...
Ça vous plaît pas ?
Non, c'est pas ça, mais... Je me reconnais pas.
Bah, c'est normal, on reconnaît jamais sa propre voix.
Bah.
Eh, c'est vous.
Ah non, non, c'est pas moi, non.
Bah.
Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Je suis désolé, Baptiste, de vous avoir entraîné dans cette aventure. C'était une très mauvaise idée, je vais vous dédommager.
Non, non, attendez, attendez. Il est où votre portable?
Il est sur le bureau.
Je... Vous permettez?
Ouais, papa.
Je suis désolé de ne pas t'avoir répondu tout à l'heure, ma chérie, mais je travaillais.
C'est pas grave. Ça avance bien?
Pas trop mal. Et toi? J'espère que tu trouves le temps de peindre.
Non, pas vraiment.
Tu sais que je connais 2-3 galeristes qui t'exposent quand tu veux.
Ouais, ouais, tu me l'as déjà dit 25 000 fois. Faut que je te laisse, je suis en retard. Je te rappelle ce soir en FaceTime?
Ah non, 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 non. Non, tu sais bien que j'aime pas ça. On se rappelle plus tard.
C'est vraiment un film pour la radio, ça. Mais l'imitation, c'est un peu le contraire du travail de l'acteur, quand même. Un acteur doit pas imiter. Les deux répondent. Allez-y, salut.
Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à faire du théâtre, ou faire des récitations à l'école en imitant. Des acteurs, voire même parfois des actrices, des choses de Madeleine Renaud, j'avais piqué. En le faisant, je pense, les gens n'entendaient pas Madeleine Renaud. Elle m'avait tellement sidéré par la délicatesse vocale qu'elle avait, le toucher. Et mon frère Bruno venait me voir au théâtre, il me disait, mais c'est pas ta voix.
Et c'est ça.
Tu imites le type qu'on a vu, là.
Donc vous avez trouvé votre voix.
Petit à petit, ouais. Comme ça, mais c'est vrai, le fait d'avoir à projeter faisait que je passais par un autre canal,
ouais.
Soudain. Et je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était pas véritablement un choix. J'étais fait par la voix des autres.
Et vous, Sally, vous avez trouvé votre voix?
Moi, j'ai l'impression qu'on a commencé par la caractériser. On commençait par la complimenter, d'abord. Donc, très vite, on m'a fait.
C'est-à-dire vos professeurs, par exemple?
Oui, les premiers professeurs de théâtre que j'avais me disaient, lui, il parle assez fort, au moins, on l'entend jusqu'au dernier rang, voilà. Et du coup, il y avait un truc comme ça où je me disais, je parle fort, on m'entend bien. Il y a quelque chose
ça,
qui
c'est
te,
bon,
je peux faire, voilà, ça, c'est bon. Mais du coup, il y a quelque chose qui te coince, t'as l'impression que t'es obligé de rester à cet endroit-là pour être, pour être exact, pour être bien. Mais moi, j'aurais voulu être plus... me transformer. Moi, c'était quelque chose que je voulais un peu plus. La modifier, ma voix, être ailleurs. Et c'est pas quelque chose qui était évident à la base pour moi. On me disait, voilà, lui, il a une présence, lui, il a une voix. Et puis, présence, voix, là, j'ai l'impression d'avoir tiré le mauvais côté du bâton. Je veux dire, moi, j'ai envie d'être Christian Bale. Moi, j'ai envie de me transformer, faire des trucs. Donc, présence, voix, tu fais rien, t'es bien. Donc, voilà, le mec, il fait rien. Bah, voilà.
Suffit.
Fais rien. Donc c'était un peu frustrant pour moi, mais aujourd'hui c'est derrière moi.
Denis Podalydès a imité un homme politique pendant tout un film, La Conquête.
Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire une chose, je me passe de votre permission. Enfin, pourquoi n'appliquez-vous cette règle du non-cumul qu'à moi seul? Si Alain Juppé n'avait pas été condamné, il serait revenu au gouvernement et l'aurait cumulé avec votre bénédiction. Alors pourquoi moi j'aurais pas droit?
Si tu choisis l'UMP, c'est OK pour l'UMP.
Vous avez l'extrême amabilité de me donner une autorisation que je ne vous ai pas demandée. Mais vous-même, dans le passé, quand vous vouliez vous emparer de ceci ou de cela, vous demandiez d'autorisation à personne, que je sache.
Tu sais, Nicolas, j'ai fait beaucoup de conneries.
Alors laissez-moi en faire quelques-unes.
Pas mal, hein?
C'est très fort.
C'est très fort, parce que c'est vous et c'est lui,
oui,
quoi.
Oui, c'est pas vraiment une... On s'était retenu avec Xavier de chercher la copie conforme... de rechercher l'imitation, de chercher quelques signes dans la voix qui faisaient qu'on ne se pose pas la question. Mm-hmm. C'est comme ici, en fait. Après, la fiction fait qu'on y croit ou on n'y croit pas. Tu disais toi-même, l'imitation, c'est une affaire de croyance. Il faut donner, susciter la croyance.
Et Salif, il imite pas juste vous, il imite Chirac, il imite Booba, Michel Berger, Peter Falk, Johnny et Bachung. Mais quel travail considérable vous avez fait, Salif, si c'est...
Bah, oui, c'est franchement...
Et bravo.
Bien, bah, merci, mais j'étais bien épaulé par une team d'imitateurs, là, un gang de derrière moi, que Michael Gregorio, Fabien Lecastel et Eclipse, parce qu'il y a aussi les rappeurs, les rappeurs, c'était aussi une affaire, moi je pensais que ça allait être le plus facile, mais non, finalement...
Ouais.
Eclipse est très 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 fort et Fabien Lecastel est spécialisé dans tout ce qui est imitation parlée et Michael Gregorio dans l'imitation chantée qui est aussi une autre affaire puisqu'il faut chanter juste même quand on sait qu'on va être accompagné pas doublé mais qu'on va mélanger nos voix, ils ont fait les imitations dans le film, j'en ai fait aussi et c'était un peu le même principe qu'avec Denis, on les a mélangé les voix.
Bravo, vous jouez donc non seulement vous-même mais vous jouez l'écrivain et vous jouez le chanteur imitateur avec Denis Podalydès, donc dans ce film qui s'appelle Le Répondeur de Fabienne Godet et Fragment d'un parcours amoureux Chloé Barreau et ils sortent
mercredi.
Tous les deux mercredi
Allez-y.
Prochain.
Allez-y,
on se retrouve après Zao de Sagazan. Parlez l'amour.
Découvre-toi, couvre ma bouche comme l'autre fois. De parler l'amour, parler d'amour, parler l'amour, je veux parler d'amour, avec toi, pas plus bas, là c'est bien.
On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Et si on commençait par le film de Wes Anderson qui s'appelle The Phoenician Shem. Déjà, la difficulté commence un peu avec le titre.
Scheme.
Structure ou représentation qui se situe entre les données de la perception et les catégories de l'entendement. L'histoire, 1950, Anatole Tsatsa Cordas et Benicio del Toro, industriel énigmatique parmi les hommes les plus riches d'Europe, survit à une nouvelle tentative d'assassinat. Ses activités commerciales aux multiples ramifications ont fait de lui la cible non seulement de ses concurrents, mais aussi de gouvernements de toute tendance idéologique à travers le monde. C'est à ce moment précis qu'il décide de nommer et de former sa successeuse, sa fille de 20 ans, qu'il a perdu de vue depuis plusieurs années. Un grand casting, des trouvailles visuelles, l'absurde toujours, et presque un portrait d'Elon Musk en rédemption.
Mais écoutez, moi j'ai rien compris à ce déferlement d'images et de personnages bavards. Hein. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'il semble tout droit sorti d'une chambre d'enfant mal rangée, avec des Legos, des puzzles, des poupées désarticulées et des Playmobil en pagaille. D'où l'impression d'une suite de scénettes de sketch pas très drôles. Et bizarrement, là aussi, on sent le travail en plus. On sent la volonté de tout maîtriser, la fausse bricole et le vrai esprit de sérieux. Avec, au total et au final, le sentiment quand même d'un vide assez abyssal.
Incroyable ce casting, Tom Hanks, Bryan Cranston,
oui,
Jeffrey White, Scarlett Johansson, Matthew Amalric, Benedict Cumberbatch. On passe à Diplodocus maintenant. Alors, lui, il s'appelle Wojtek
Wawrzyk, on va dire comme ça, pardon. Oui.
Une animation, Laurent, qui allie prise de vue réelle et images de synthèse pour les petits et pour les grands. Oui. L'histoire de ce petit dinosaure qui rêve de vivre une grande aventure.
Oui, c'est un très très beau film d'animation parce qu'il a tous les atouts du genre, les couleurs, les rythmes, l'humour, les rebondissements multiples. Et dans le même mouvement, bah, il donne à réfléchir sur la création, le rapport entre la fiction et la réalité. Précisément parce que, il passe de l'animation à la vue réelle et qu'il y a cette espèce d'objet hybride, mais qui fonctionne très très bien. Alors, on y croise un âne philosophe, des oignons chanteurs, des sirènes trompettes dans le triangle des Bermudes et même des Égyptiens du temps des pharaons. Bref, c'est absolument intelligent, absolument sensible, enjoué, malicieux. C'est rien que du bonheur. Ça s'appelle Diplodocus et franchement, on peut le voir en famille et je pense que tout le monde y trouvera son compte.
Le Wojciech Wawrzyk.
Bravo.
Another End de Piero Messina. Après avoir survécu à l'accident qui a coûté la vie à l'amour de sa vie, Sal, c'est Gaël Garcia Bernal, ne parvient pas à faire son deuil. Sa sœur, Ebel, lui suggère de se tourner vers Another End. C'est une nouvelle technologie qui promet d'atténuer la douleur de la séparation en ramenant brièvement à la vie la conscience de ceux qui sont morts. Sal retrouve ainsi l'âme de Zoé à travers une autre femme. Quel pitch est proche des linceuls de Cronenberg, finalement? Et cette question, aimer l'autre, est-ce l'amour? Est-ce l'aimer charnellement ou au-delà de sa présence?
C'est vrai, alors c'est le second long métrage de ce réalisateur, après L'Attente en 2015, qui était avec Juliette Binoche, et un thème assez commun, hein, ça, il creuse son sillon, l'absence, le deuil, la résilience ou pas la résilience. Alors ici, il choisit la voie de la science-fiction et la dystopie. Si on peut être séduit par ce choix et par la situation de départ que vous venez très bien de décrire, y compris dans son côté scabreux, j'avoue qu'assez rapidement, la machine tourne à vide et elle s'étire longuement, 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 virant même à l'artificiel et au manque d'imagination. À l'instar, par exemple, d'un décor futuriste symbolisé par le plus convenu d'entre eux pour nous, en tout cas, c'est l'esplanade de la Défense. Moi, j'ai un peu de mal quand même à m'imaginer qu'il n'y ait plus que ça comme symbole de notre futur.
Oui, ça serait triste. Shime, c'est un moyen métrage de 45 minutes du grand Kiyoshi Kurosawa. Tashiro entend un carillon que personne d'autre n'entend. Le Shime résonne. Il affirme qu'une machine s'est greffée à son cerveau. Le Shime résonne encore. Matsuoka, son professeur de cuisine, tente de l'aider. Le Shime résonne plus fort. Tashiro se saisit d'un couteau. C'est un thriller horrifique, reposant bien sûr sur le son, un cauchemar aux images mortifères, aux plans virtuoses et à la fin, un film sur le mal-être contemporain.
Oui, alors, Kiyoshi Kurosawa, rien à voir avec l'autre Kurosawa, on ne le dira jamais assez. C'est ni un fils.
Akira.
Ouais, Akira, exactement. C'est un spécialiste du genre fantastique, voire effectivement horrifique. On se souvient de Kuro ou de la mini-série Shokuzai. Il revient ici avec un film très court, 46 minutes. C'est pas un long métrage, c'est dans la catégorie moyen, court, mais voilà. Et bien, c'est cette durée particulièrement efficace qui ne compte pas pour rien dans la totale réussite du film. Pas une minute de trop ou d'ennui pour instaurer une drôle d'atmosphère angoissante, angoissante à souhait. Et je ne vous dévoilerai évidemment rien de ce Shime, de ce carillon, mais rien que de l'entendre, on commence à avoir peur, et c'est bien ça le but du film.
L'ultime braquage du Danois Frédéric Louis Hervid, un polar inspiré de faits réels. Une équipe de braqueurs chevronnés prépare miraculeusement un gros coup. Un braquage rapide, brutal, sans bavure et sans trace. Mais une erreur va tout changer, il faut tout abandonner, disparaître maintenant. Des poncifs, des clichés et une écriture incohérente.
Ben oui, alors que quand même 70 millions d'euros, ça fait rêver, hein, jamais retrouvé. Bon voilà, ça c'est pour l'histoire vraie. On se frottait les mains en se disant, ah, un nouveau film de braquage, on adore ça depuis Melville et tant d'autres films américains aussi. Malheureusement, le film est absolument bancal dans une première partie qui s'étire sans raison, et puis vient enfin, mais lourdement filmé, le braquage, avec plein d'invraisemblances, plein d'incohérences. Les protagonistes sont mal dessinés, il n'y a pas pas de silhouette, on les sent caricaturaux à souhait, et on finit en plus par se demander ce que notre rédacateb national est venu faire dans cette galère danoise, qui décidément ne remplit pas son rôle.
45 ans après une réédition d'un grand film signé Fassbinder, c'est Lily Marlène.
Ben oui, avec Anna Chigoula en personnage principal, on a tous été à la fois touchés par cette incarnation-là. Bien évidemment, il faut voir ou revoir le film de Fassbinder.
Le festival chinois à Paris.
Alors, deux festivals chinois, sinon rien. À Paris en ce moment, c'est incroyable. Hein. La 16e édition du Festival du cinéma chinois de Paris, du 26 mai au 14 juin, donc c'est toujours en cours au 7 Parnassien et au Pâté Les Fauvettes. Des avant-premières, des films rares, des chefs-d'œuvre du patrimoine en ciné-concert. On adore les ciné-concerts, donc c'est vraiment... Allez-y. Et puis la Cinémathèque française qui, jusqu'au 2 juin, joue aussi la carte chinoise avec une rétrospective sur le cinéma chinois au féminin. Beaucoup de films de 1982 à 2024, des docs et des fictions.
Des cadeaux maintenant.
Ben oui, des cadeaux. Alors pour Chloé Barrault, un documentaire pour elle. Je ne sais pas si elle a vu en Italie, à Rome, où elle vit, Nelly et Nadine de Magnus Gerten.
Alors je suis très curieuse de voir ce film dont j'ai beaucoup entendu parler. Il n'a pas été distribué en Italie.
Ah bah super.
Et il paraît que c'est la plus belle histoire d'amour jamais racontée.
J'adhère,
suis presque sûre.
J'adhère à ce jugement. C'est publié par l'Atelier d'Images. C'est l'histoire d'amour entre deux femmes qui commence à Ravensbrück en 1944, ouais, et qui va se poursuivre tout au long du siècle. Et c'est exhumé par une des petites filles de l'une de ces deux femmes. C'est absolument bouleversant, saisissant, magnifique.
Merci voilà, beaucoup.
On vous le recommande chaudement. Pour vous, Denis Podalydès, c'est bien un autre acteur, une autre voix, vraiment, du cinéma français, hélas disparu, Jean-Louis Trintignant, qui raconte la plus précieuse des marchandises pour Michel Hazanavicius dans ce Blu-ray édité par Studio Canal. Magnifique fable à la fois cruelle, lucide, réaliste sur les camps de la mort.
Et je suis dedans, d'ailleurs.
Et vous êtes dedans, ça ne nous a pas échappé. mais c'est un film qu'on a évidemment beaucoup aimé. Et à quelques jours de l'ouverture du Festival du cinéma d'animation d'Annecy, c'est aussi une façon de dire combien le film d'animation est important et produit de beaux objets, si je puis dire. Salif Cissé, je ne sais pas si vous avez vu l'an dernier, 20 dieux de Louise Courvoisier, premier film d'une cinéaste dont on va entendre parler, parce que vraiment, c'est sacrément talentueux. Elle a commencé à Lyon, à la Ciné-Fabrique. C'est chez, qui est très talentueux, c'est chez Pyramide Vidéo, et c'est une éducation sentimentale et fromagère. Ouais. C'est là où c'est fort.
Merci à vous trois. Fragments d'un parcours amoureux, Chloé Barrault et le répondeur Denis Podalydès et Salif Cissé. Un pronostic pour ce soir, Denis, pour le match, la finale de la Ligue des Champions?
Il aime pas faire ça.
Non, pas du tout.
Ah d'accord.
Il sera au théâtre, il le découvrira.
Mais je peux me lancer.
Allez-y.
Moi, je dis au moins 0 pour Paris Saint-Germain et on souffre et on gagne.
Ah très bien.
Non, 0. On finit ça dans le temps réglementaire.
Écoutez, moi, ma compagne, évidemment, est pour supporter l'Inter. Mais je reste parisienne, donc je vais dire... J'espère que Paris va gagner.
Merci à Valérie Ayestaraï, à Louise Tempéreau et à Thierry Dupin, toute notre belle équipe. Au revoir.
Au revoir.